ça fait bien plus de 10 ans que je suis installé, donc il y a des gens qui reviennent, des gens qui rajoutent, qui accumulent certains problèmes. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir un large éventail comme ça de personnes. En parallèle, histoire de sortir un petit peu du cabinet, je me suis intéressé depuis quelques années au sport handicap, donc je suis aussi moniteur de ski handicap, principalement de ski, aussi pour l'ASP, pour l'association Plus Sport, je participe à des camps, et puis sinon je travaille dans une petite association à Villers, dans laquelle on pratique le ski adapté pour des personnes autonomes, ou bien en tant que pilote, pour des gens qui n'arriveraient pas à skier tout seul. Le ski de fond aussi. Et puis, l'été, on fait aussi un petit peu de vélo. Voilà, comme ça, c'est un bon moyen de voir plein de gens sympathiques et simplement le but de la... On va pas dire de la séance, parce que c'est plus de la physio, mais... Le but, c'est simplement que les gens sortent avec la banane et soient contents. Donc ça, c'est sympa aussi, justement, d'avoir d'autres perspectives et d'autres buts de sortir comme ça. Voilà donc le titre. Donc aujourd'hui, il y a un petit peu deux parties. Donc la présentation qui dure une demi-heure, pendant laquelle je vais faire du frontal, donc je vais m'exprimer, je vais exposer un petit peu tout ça. Vous avez des points notés si vous voulez prendre des notes. Si par la suite aussi le PowerPoint, donc la présentation vous intéresse, vous pouvez nous signaler et puis on peut vous envoyer un format PDF ou quelque chose comme ça, pour moi il n'y a pas de problème. Donc cette présentation justement va poser quelques bases et puis surtout après la deuxième partie, après la pause, qui durera une heure s'il le faut, on va pouvoir discuter, améliorer ou en tout cas étoffer certains sujets, si vous avez des questions, voilà, on pourra développer plus tout ce qui sera abordé maintenant. Donc dans le titre, il y a trois grands domaines, trois grands thèmes, la physiothérapie, la personne âgée, le syndrome post-polio, donc ça me paraissait important de juste poser un peu les bases, de savoir de quoi on parle, et puis vous verrez, en ayant ça comme notion, on arrive déjà à comprendre certains cheminements, certains points de vue, et puis à répondre déjà à pas mal de questions. Donc voilà, quelques définitions, qu'est-ce que la physiothérapie ? Des particularités des traitements physio et surtout des particularités de la personne âgée, de la gériatrie, on appelle ça en médecine. La médecine de la personne âgée, c'est la gériatrie. On dit à partir de 60 ans, 65 ans, elle est une personne âgée, donc on est vite. Hein. Particularité en cas de syndrome post-polio, donc voilà, reprendre rapidement, vous connaissez le thème, ça c'est sûr. Juste poser quelques bases comme ça pour justement permettre de voir aussi comment les physios vont appréhender les personnes comme ça. Alors, dans la physiothérapie, une définition, voir un peu les domaines d'action de la physio, et puis quelques techniques, non exhaustives, mais quelques techniques qu'on va utiliser en tant que physio. Dans le mot physiothérapie, il y a déjà tout, il y a déjà le principal. Donc physio, c'est physique, on va utiliser que des moyens physiques par opposition à des moyens chimiques ou invasifs, on ne va pas faire de cicatrices ou injecter des médicaments. Alors on va traiter, soigner, donc physiothérapie par des moyens, des agents naturels. Dans quel domaine de la médecine, donc pour quelle partie du corps les physios vont pouvoir intervenir? Je trouvais important de citer comme ça les grands chapitres, parce que des fois on n'a pas toujours une idée globale de la physiothérapie. Donc voilà, ce qui nous vient en premier à l'esprit, c'est ce qu'on appelle le système locomoteur. Donc ça englobe, c'est la charpente, le moteur du corps. Donc ça englobe les os, avec des problèmes de fracture, des problèmes de déminéralisation des os, l'ostéoporose. Là, on pourra intervenir indirectement, en tout cas améliorer un peu certains états. Et puis tout ce qui est muscles, tendons, avec des problèmes directement de muscles paralysés, mais aussi de muscles affaiblis ou des muscles qui sont atteints de maladies propres aux muscles, comme la myopathie, certaines myopathies. Les ligaments, ce qui maintient les os ensemble, donc là aussi les entorses, comme ça, les physios sont très souvent sollicités. Et tout ce qui est nerf, donc ce qui commande le muscle, donc nerf périphérique, les fils électriques qui viennent sur le muscle, qui sont justement atteints en cas de poliomyélite, et puis tout le système nerveux central, cerveau, pour des problèmes d'AVC, donc d'hémiplégie, des problèmes de coordination suite à des tumeurs, voilà. Donc il y a un peu tous les... Le système locomoteur, c'est très très vaste, et là, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'applications physiothérapeutiques. Sans oublier le moteur, la pompe, système cardiovasculaire, cardiaque, le cœur, dans des suites d'infarctus ou des personnes qui ont des insuffisances cardiaques, on va aussi intervenir. Vasculaire, c'est tout ce qui est la tuyauterie, donc les veines, ce qui ramène le sang au cœur, donc tout ce qui est problème veineux peut aussi être traité en physiothérapie, enfin pas tout, mais certaines choses en problème veineux. En lymphologie, le système lymphatique, ce petit système qui ramène l'eau dans le système veineux, et tout ce qui est artériel aussi, coronaire, les personnes qui ont l'insuffisance artérielle au niveau des jambes, là aussi des exercices ciblés vont être primordiaux. Et pour amener le carburant dans le sang, il nous faut des poumons, donc tout ce qui est système respiratoire aussi, là aussi les physios vont intervenir. Ça peut être en soins aigus, mais aussi en réadaptation par la suite. J'ai pas fait carrément de slide pour ça, mais il y a aussi des physiothérapeutes qui peuvent intervenir pour des problèmes psychiatriques, pour des problèmes cognitifs aussi. Des physios en hôpitaux psychiatriques, par exemple, des grosses dépressions, des gens qui doivent se recontacter, reconnecter avec leur propre corps. Donc là aussi, les physios vont pouvoir être là. Donc voilà. En gros, tout, quoi. Donc, on voit déjà juste comme ça que la physiothérapie, c'est un pendant la médecine traditionnelle chez nous, c'est la médecine de base. Mais on peut intervenir dans quasiment tous les domaines. C'est ça qui est hyper intéressant. Une école de physio, bah vous avez un panel de, je sais pas, 15 métiers à disposition. Donc ça, c'est je trouve, la grande force de notre métier. Et puis c'est pour ça que je le pratique toujours avec beaucoup de plaisir. Donc tous les systèmes, tous les âges aussi, depuis la naissance. Certains physios vont même travailler avant la naissance, donc tout ce qui est la femme enceinte. Mais donc dès la naissance, les physios vont intervenir jusqu'à la mort pour les soins palliatifs. Il y a aussi la physiothérapie avec des physiothérapeutes spécialisés en soins palliatifs. Donc là aussi, tous les systèmes et tout au long de la vie. Donc, où trouve-t-on des physiothérapeutes ? Dans les hôpitaux, dans les soins, dans les structures médicales, donc ça va être un hôpital de soins aigus, comme dans les soins intensifs. Dans un hôpital aussi suite à des opérations, mais aussi dans les établissements médico-sociaux. À domicile, on va se déplacer chez les gens qui n'arrivent pas à se déplacer. En cabinet, et parfois sur le terrain, chez les sportifs. Les moyens de traitement, juste les outils que nous avons à disposition. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a tout ce qui est traitement actif, où la patiente va travailler, va faire des exercices. Ça, c'est vraiment la grande partie des soins de physio. Donc, ça peut être des exercices d'équilibre, d'étirement, de renforcement. Voilà, le panel est très large, les outils sont variés, avec beaucoup de concepts différents. Chaque physio a aussi ses propres sensibilités et puis va se lancer dans une technique particulière, dans un concept particulier. Le massage, qui est efficace chez certaines personnes, d'autre part. Le massage des tissus mous, donc en France, ils appellent les physios les masseurs kinésithérapeutes. Maintenant, dans notre pratique, c'est plus la grande partie de notre traitement. À l'école, c'est même un petit peu mis de côté parce qu'on trouve que le massage n'est pas des plus efficaces dans les études à long terme, etc. Mais moi, je trouve que c'est quand même toujours quelque chose qui peut, enfin, pas toujours, mais chez certaines personnes, ça peut être quelque chose de bien, bien adapté, qui permet d'aller plus loin, qui permet de faire un exercice, qui permet, voilà, d'avancer comme ça. Donc, massage des muscles, des tissus mous. Dans un autre traitement passif, il y a tout ce qui est manipulation, donc bouger un os par rapport à l'autre, travailler les articulations, les concepts de thérapie manuelle, où là c'est toujours le physiothérapeute qui va travailler et le patient est ce qu'on appelle passif. Par opposition à la première dia où le patient travaille. Citer aussi un autre type de massage, le drainage lymphatique, qui permet par des pressions, à ramener la lymphe, donc le liquide qu'il y a dans les tissus, plus au niveau central. Après, c'est toujours associé aussi à des bandages ou en tout cas des bas de contention, que ce soit pour le ventre supérieur, le ventre inférieur. Ça, c'est aussi une partie. J'ai sorti deux, trois moyens de traitement aussi qui doivent vous parler à certaines personnes, parce que c'est aussi lié à certaines pathologies, disons. On verra ça plus tard dans l'exposé. Pour la respiration, il y a aussi, c'est quand même aussi une grande partie de la physiothérapie. Il y a des physiothérapeutes qui font que ça, qui font que de la physio respiratoire, à domicile, en soins aigus, etc. Où là, on peut utiliser les mêmes techniques un peu vues avant, donc des exercices, mais aussi des manipulations, des massages, des mobilisations, des outils extérieurs comme certaines machines. On peut travailler aussi avec la ligue, quand on voit les vaudoises contre pulmonaire, la ligue pulmonaire vaudoise. Ça, je faisais beaucoup en milieu hospitalier, maintenant un peu moins. Toujours des agents physiques, hein. Voilà, des exercices comme un peu la première partie, mais là plus axé sur le cardiovasculaire, retrouver une forme physique ou suite à un problème, une opération, un problème cardiaque, etc. En piscine. Grande partie de nos traitements physio, vu qu'on voit les gens quand même longtemps, enfin c'est des séances qui durent au minimum 30 minutes. Après, en principe, pour des personnes qui ont des problèmes neurologiques, on a droit à 45 minutes, on peut dépasser aussi, enfin voilà. Mais pour dire qu'on est longtemps avec la personne, on les voit souvent, fréquemment, une fois par semaine, deux fois par semaine, des fois une fois par mois, ou, enfin bref, mais ils ont assez régulièrement, donc on a beaucoup de choses à échanger. Et il y a beaucoup de parties, je trouve, que j'utilise beaucoup, mais j'ai pas mal de gens qui ont des douleurs chroniques, donc la pédagogie de la douleur est très importante, d'expliquer ce qu'est la douleur, comment on peut la gérer, et puis aussi, on verra plus tard, de gérer la fatigue, de gérer l'effort, ça c'est tout des notions comme ça qui sont plus, on va dire, intellectuelles, de discussion psychologique, et ça, c'est une grande partie de la physiothérapie. À l'école, maintenant, c'est bien, ça commence à être amené mieux, enfin, des cours spécifiques pour ça. À mon époque, on faisait vraiment la mécanique, et puis voilà, après, on se débrouillait avec les personnes, avec nos propres sensibilités, et puis. Mais je trouve que ça, c'est vraiment hyper important. Après, il y a tout ce qui est moyen auxiliaire, bien sûr. Ouais, comme on est un peu en première ligne, on peut discuter ou orienter ou suggérer des futurs moyens auxiliaires. Une collaboration aussi avec d'autres métiers, avec les ergothérapeutes, les orthopédistes. Alors, comme un petit dernier, les bandages compressifs comme on a vu avant, mais aussi des poses de tape, donc c'est des scotchs qu'on a collés sur la peau. Après, on peut faire des ultrasons, mais ça c'est mécanique aussi, c'est quelque chose qui vibre, des appareils électriques, c'est aussi dans les traitements physiques, froid, chaleur, etc. Alors, tous des adjuvants comme ça au traitement. Voilà, donc on a parlé de cette première partie justement, qu'est-ce que la physiothérapie, ça donne déjà une idée assez large. Maintenant, spécifiquement, la personne âgée, c'est aussi difficile de trouver quelque chose de succinct parce que ben, ça englobe beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. J'ai essayé de regrouper ça comme ça pour synthétiser le tout. Pour ça, plutôt que de chercher des sites trop spécialisés, je suis allé voir à l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, un peu ce qu'ils disaient par rapport à ça, par rapport à la médecine, en tout cas des soins ou de la personne âgée. Donc, à travers le monde, la moyenne d'âge augmente, ça on le sait, augmente rapidement, plus rapidement que ce qu'on avait imaginé. Donc il y a des projections qui sont faites qu'en 2050, il y aura autant de personnes dites âgées, donc de 60 ans et plus, que de personnes entre 15 et 25 ans. Donc ça fait, vous voyez, la proportion est quand même importante. Enfin bref, il y a plein de chiffres comme ça qui sortent, des projections. Ça montre simplement que c'est quelque chose d'important, qu'il faut prendre en considération. Ce sont des défis pour les politiques, pour les gouvernements, de pouvoir bien s'occuper de toutes ces personnes. C'est dans les systèmes sociaux, dans les systèmes de santé. Donc c'est un élément comme ça de la population qui est au devant de la scène, on va dire, depuis quelques années. Est-ce qu'on prend conscience de ça? Avant, c'était un petit peu, bon, la gériatrie, c'est les vieux, on s'en occupe, on verra. Mais là, vraiment, il y a beaucoup de choses qui avancent et des recherches qui sont faites. Donc ça, je trouve que c'est dynamisant et dynamique de travailler comme ça dans ce domaine aussi. Donc au niveau des problèmes de santé liés à la personne âgée, en premier, il y a tout ce qui est déficit donc de l'ouïe et puis de la vue. Un problème de douleur. En vieillissant, on a plus facilement de douleurs, quoique ça, il faudra encore vérifier, mais disons, les lombalgies et les cervicalgies, donc douleurs de la nuque et du bas du dos, viennent assez facilement. Problème d'arthrose, donc dégénérescence du cartilage, ce qui est entre les deux os dans les articulations. Problème respiratoire, un mot compliqué pour dire avoir la peine à respirer, tousser, cracher. Qui peut être dû à plein de choses, donc il y a le tabagisme bien sûr, il y a aussi n'importe quel problème respiratoire. Chronique, ça vient vite, hein, ça partir souvent, quand on parle de quelque chose de chronique, c'est souvent à partir de 3 mois, donc vous voyez, on vient assez vite. La BPCO, c'est peut-être un peu plus, je ne sais pas exactement le chiffre. Ça veut dire que c'est un mécanisme du corps qui se fait de manière automatique, comme ça, et qui a tendance à s'installer. Donc, ça aussi, c'est une problématique mondiale importante. Le tabagisme, aussi la pollution, vont avoir des influences là-dessus. Le diabète aussi, dans l'augmentation, et puis important dans la population plus âgée. Voilà, après le corps s'use, mais le cerveau peut perdre quelques fonctions aussi. Donc, ça sort ça, c'est vraiment au niveau mondial, donc la démence, voilà, c'est l'état qui regroupe aussi des problèmes de mémoire, des problèmes cognitifs, donc c'est assez vaste, mais c'est la logique un peu des choses quand notre corps travaille depuis des années, il y a des articulations qui s'usent et puis le cerveau qui se fatigue. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est propre, assez spécifique à la personne âgée. Il y aura plus de ces cas-là chez les gens de 65 ans et plus que chez les jeunes. Et ce qui est particulier, justement, on avance, on a un diagnostic, un problème, on continue d'avancer, on aura quelque chose qui va s'accumuler. Donc ce qui est particulier quand même en gériatrie et chez la personne âgée, c'est la polypathologie, donc plusieurs pathologies qui s'accumulent. À l'OMS, ils parlent de syndrome gériatrique, je ne connaissais pas trop ça, mais je le dis quand même, qui regroupe un ensemble de symptômes, un ensemble de problèmes, qui est assez commun en fait. Chez la personne âgée. Et plus on avance, plus on accumule comme ça des soucis. C'est quoi ? Bon, la physio dans tout ça. Sur quoi on va pouvoir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir influencer ? Dans quel domaine on va pouvoir être efficace, en tout cas être appelé à travailler ? Donc, déjà, tout ce que je vous ai dit avant, ça donne déjà des pistes. Hein. Donc j'ai repris la liste de ce que je viens de vous dire avec l'OMS, avec les principaux problèmes liés à la personne âgée. En vert, ce qui me paraissait assez direct, des actions directes de la physio, donc tout ce qui est lombalgie, arthrose, on ne va pas enlever l'arthrose, mais on va permettre à la personne de bouger pour maintenir ses articulations en forme. Parce que pour l'arthrose, il faut bouger. Le cartilage se nourrit par le mouvement, en fait. On n'a plus cette image qu'on m'avait donnée quand j'étais à l'école, il n'y a pas si longtemps que ça quand même, que le cartilage est de l'usure, donc si c'est usé, il faut le préserver, il ne faut pas bouger. Au contraire, le cartilage se nourrit par imbibition, donc par pression, c'est comme une éponge qui baigne dans un liquide, il faut l'écraser, qu'elle se vide du liquide. Après la dépression, ça va ramener le liquide dans l'éponge, donc le cartilage c'est vraiment ça. Donc il a besoin de cette stimulation pour se nourrir, donc le mouvement est hyper important. Comme les muscles, comme les os, hein, ils ont besoin aussi de contraintes pour d'être minéralisés, bien solides. Et puis comme on l'a vu avant, tout ce qui est aussi respiratoire, ben, le physio va pouvoir influencer. Il y a des physios spécifiques pour l'incontinence urinaire aussi, des physiothérapeutes spécialisés dans ce domaine-là, qui vont rééduquer la musculature du plancher pelvien. Maintenant, c'est vraiment une physiothérapie qui est prescrite assez largement. Donc, c'est bien, parce que c'est quelque chose qui a souvent été un peu tabou, et puis c'est bien d'en parler parce que c'est problématique. Et puis, vraiment spécifique à la personne âgée, c'est le risque de chute ou les chutes qui peuvent avoir des conséquences dramatiques, hospitalisation, plus de retour à la maison, etc. etc. Donc ça, la prévention des chutes, c'est un des rares éléments où les assurances, où les gens sont d'accord que les physios fassent de la prévention, parce qu'on est toujours appelé après, ce qui nous rend des fois un petit peu nerveux, parce qu'on aimerait bien pouvoir faire un peu plus de prévention pour éviter de surcharger les cabinets, enfin je sais pas, mais en tout cas d'éviter des problèmes, parce qu'on fait beaucoup de prévention. Et là, les risques de chute, on est reconnu comme étant efficace pour éviter les risques de chute en proposant des exercices, des choses assez simples, mais qui sont vraiment, vraiment bien. Dans une autre mesure, j'ai rajouté le diabète et les escarres, parce que de nouveau, avec le mouvement, on peut gérer un peu mieux son taux de sucre. Pour éviter qu'il soit au plafond, en faisant un effort ciblé, on va pouvoir descendre. Donc on peut équilibrer un diabète aussi en gérant l'effort. Le physio peut intervenir aussi là, pas forcément en première ligne, mais disons là. Et puis les escarres, dans la prévention des escarres, en faisant des mouvements, peut-être en ayant un œil aussi sur les coussins, les choses sur lesquelles les personnes sont assises. Et puis après, dans le traitement même des escarres, parfois le drainage lymphatique peut être efficace. En rouge, il y a quand même toujours ces éléments, on ne peut pas avoir une influence directe en physiothérapie, mais il faut faire avec. Donc il faut s'adapter aussi à cette problématique, ou en tout cas à cet élément. Quand on va avoir quelqu'un en face de nous, qui a peut-être mal au dos, mais qui a des problèmes visuels, donc lui montrer un exercice, ben, ça va être différent, il va falloir s'adapter aussi. Quelqu'un qui va avoir plusieurs pathologies, peut-être qu'il a une prescription pour l'arthrose de genou, mais en fait, il y a plein d'autres choses derrière, donc il faut aussi jongler avec tout ça. Donc ça, c'est vraiment particulier dans les traitements de la personne âgée pour un physiothérapeute. C'est pas juste un diagnostic, mais il y a vraiment un ensemble. Et puis les problèmes cognitifs, donc de compréhension, mais aussi de mémoire, des choses comme ça, vont aussi influencer nos traitements, forcément. Quand on va proposer des exercices ou des choses à faire, mais il faut quand même avoir ça en tête pour bien s'adapter à la personne en face de nous. Donc voilà, il faut faire avec tous ces troubles associés, tous ces éléments comme ça qui sont quand même fréquents chez la personne âgée. Quelques mots sur le syndrome post-polio. D'abord, plus généralement sur la poliomyélite, donc juste rapidement, donc c'est clair que la paralysie, la destruction d'un nerf va empêcher le muscle de bien fonctionner, ou pas fonctionner du tout, une partie du muscle. Donc ce qui va aboutir à une perte de fonction, moins bonne marche, pas de marche, ou certaines fonctions qui vont diminuer ou disparaître. Un endroit qui ne bouge pas beaucoup, va s'ankylosé. Donc voilà, le manque de mouvement va aussi engendrer un manque d'entraînement du système cardiovasculaire, du système donc, de la pompe, du système pulmonaire aussi. Ça découle un peu de tout ce qu'on a dit avant. Hein, mais, voilà. Après, les problèmes de peau, les douleurs aussi, dues directement à la paralysie, mais aussi du changement. Le cerveau, il n'aime pas quand ça change, donc la douleur étant le système d'alarme du cerveau, du corps, quand il y a un truc qui change, certaines personnes, c'est le temps qui change, mais quand il y a quelque chose qui change de fondamental comme une paralysie, ben c'est clair que le cerveau, il panique, il peut envoyer des douleurs plus facilement, voilà, ça c'est tout. Un vaste sujet sur la douleur, on ne va pas aller dans les détails, on pourra en discuter volontiers après. Voilà, c'est des choses qui apparaissent comme ça en cas de paralysie, plus spécifiquement aussi polio. Vous connaissez, j'imagine, tous un peu ce schéma, mais juste le syndrome post-polio, donc j'aime bien montrer ça aussi à d'autres personnes, mais de dire que voilà, il y a une paralysie qui s'installe, donc le muscle fonctionne moins, il y a une régénérescence, on va s'adapter, il y a des petites dendrites, des petits bouts de nerfs qui vont proliférer, entre guillemets, autour du nerf qui fonctionne. Donc on va avoir une amélioration sur une certaine période, une grande perte de stabilité, et après, paf, le syndrome post-polio qui peut arriver. Pourquoi exactement? Ça c'est toujours, enfin, j'ai rien trouvé en tout cas de très prouvé. C'est une fatigue du nerf, c'est un vieillissement normal, une réaction du corps, auto-immune. Ou est-ce que les mutations du virus fait qu'il y a une réinfection? Ça, on ne sait pas. Enfin, j'ai pas trouvé en tout cas quelque chose de sûr. Mais voilà, pour le mécanisme en tout cas. Symptômes. Très souvent, la plupart du temps, vraiment quelque chose qui ressort, c'est une fatigue, mais pas juste la fatigue du matin, parce qu'on a fait la fois le soir d'avant, c'est vraiment l'épuisement total. Ça, c'est vraiment primordial, c'est hyper spécifique. Donc, on a le syndrome post-polio, hein, donc la faiblesse des muscles, mais qui va aller croissant. Donc, il y a des paliers, mais souvent, en tout cas, on peut observer quelque chose qui continue. Et c'est le côté désespérant, le côté. Fatalité qui n'est pas évident, c'est sûr, mais aussi d'adaptation qui est vraiment particulier, avec toujours les douleurs. De nouveau, un changement revient, donc les douleurs vont revenir aussi de manière plus marquée. Ce qui ressort aussi, il peut y avoir des difficultés respiratoires, la déglutition, incontinence, donc tout ça c'est de nouveau une faiblesse de muscles qui vont redevenir plus faibles. C'est des muscles spécifiques, comme le diaphragme, les intercostaux. Ça peut être aussi dû à la forme, et ça a évolué vraiment progressivement. Mais au syndrome post-polio, on peut avoir justement des muscles ou des nerfs, voilà, toujours la même question, mais qui vont moins bien fonctionner. Ce qui fonctionnait bien, en tout cas qui permettait de fonctionner correctement, va diminuer. Bah, paf, on a des symptômes qui vont arriver, comme des problèmes de déglutition. C'est des fois ça qui peut donner la puce à l'oreille au médecin ou au patient, à la personne elle-même, au physio s'il est attentif à ça. Après une opération, après un choc, donc on a peine à avaler, on fait des fausses routes, parce qu'on est en train de partir dans un syndrome post-polio. Incontinence, ben voilà toujours les muscles qui nous retiennent l'urine qui travailleront différemment ou moins bien. On relève aussi souvent des problèmes de sommeil ou de sensibilité au froid. Ça, c'est plutôt le système nerveux neurovégétatif qui est l'autre système nerveux qu'on n'arrive pas vraiment, sur lequel on n'arrive pas à avoir d'influence, mais qui peut aussi en bâtir et puis créer ces types de symptômes. Alors, j'ai fait un peu la même chose qu'avant, comme ça, c'est un peu plus clair, essayer de structurer tout ça. Donc, en physio, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, bah, de nouveau, ce qui est locomoteur, les muscles, les ligaments, tout ce qui est en raidi, on peut étirer, assouplir, tâcher de renforcer, la respiration, la déglutition, donc tout ce qui est musculaire, ça paraît logique que le physio va pouvoir faire quelque chose. Mais il doit faire attention à ceci, surtout le premier. La fatigue, l'épuisement. Donc, le physio, il faudra qu'il fasse vraiment super attention au dosage des exercices, au temps de récupération, à tout ça. Donc, ça, c'est vraiment un élément primordial et essentiel dans le traitement des personnes qui ont le syndrome post-polio. Il y a d'autres pathologies aussi pour lesquelles il faut faire attention, mais ce n'est pas si fréquent que ça. On a plutôt tendance à pousser les gens, à dire allez, il faut y aller, écoutez ou pas, tout ça. Mais là, il faut faire vraiment attention. Après, les problèmes de sommeil, sensibilité au froid, c'est aussi à prendre en considération, peut-être moins en cabinet, mais si on va travailler dehors ou si on propose des exercices à l'extérieur, il ne faut pas oublier que peut-être le froid va couper toute la. Va augmenter les douleurs ou va empêcher de bien bouger. Donc voilà, j'ai mis un petit peu ce qui m'était venu un peu en premier à l'esprit. Donc il faut, comme j'ai dit, il faut respecter la fatigue, doser les exercices, faire attention au temps de récupération. On dit à peu près, pour une idée, c'est un temps de travail, cinq temps de récupération, donc c'est beaucoup. Hein. Quand on a l'habitude d'aller tout le temps à fond, il faut s'adapter. Donc il faut s'adapter à la personne, bon, ça paraît logique, mais d'autant plus, je trouve, par expérience en tout cas, chez les personnes qui ont ce diagnostic-là, parce que toute leur vie, elles se sont habituées, elles ont fait avec leur handicap, elles ont forcé un peu des portes, elles se connaissent hyper bien. Donc un petit millimètre de différence au talon de la chaussure, ça va avoir beaucoup d'influence. Donc des fois, nous, on vient avec le gros sabot en disant « Non, non, il faut faire comme ça, ça doit vivre, c'est comme ça qu'il faut faire. » Donc là, il faut vraiment s'adapter à la personne, ça c'est hyper important. Et puis, je l'ai appris justement en côtoyant des personnes comme ça. On nous dit tout le temps qu'il faut faire un bilan, bien regarder. Mais vraiment, toutes les informations qui viennent d'une personne qui a eu la polio toute sa vie, quasiment, il faut vraiment tout noter et tout prendre en considération, je trouve. Il ne faut pas essayer de tout de suite interpréter, vraiment prendre ça dans le traitement. La pertinence des moyens auxiliaires, c'est sûr qu'il ne faut pas attendre trop, pas qu'il y ait cette fatigue. Puis là, nous, comme on est souvent en première ligne, donc on va discuter déjà, communiquer aussi, proposer. Imposer, on n'ose pas, mais il faut des fois insister un peu. Donc là aussi, c'est un travail par rapport aux moyens auxiliaires, c'est, C'est assez riche de pouvoir communiquer avec un orthopédiste ou avec la personne qui construit les moyens auxiliaires. Un ergothérapeute, là aussi, c'est une équipe pluridisciplinaire qui va être autour de la personne, mais avec toujours la personne qui est au centre, mais qui doit aussi faire se lancer des défis, s'adapter. Donc nous, on est là aussi pour soutenir et pour encourager ces personnes-là qui sont en train de faire des chemins, des fois tortueux. Mais voilà, c'est ça aussi qui est particulier. Je trouve que c'est une belle leçon de vie aussi en tant que soignant. On parle beaucoup de cette fatigue. Moi, je trouve qu'il y a un peu deux autres pathologies, ou en tout cas syndromes, qui sont... syndrome, c'est un ensemble de symptômes. Donc on ne peut pas dire, paf, c'est une maladie, il y a telle bactérie, ou voilà, tel élément, prise de sang spécifique. C'est vraiment un ensemble de symptômes, donc des choses que les gens ressentent ou remarquent. Donc le syndrome de la fatigue chronique, qui est peu connu, souvent un peu dévalorisé, on va dire. Quelqu'un qui est tout le temps fatigué, bon, il n'est pas syndrome de fatigue chronique. Il ne faut pas trop en considération, mais ça peut être très très invalidant pour les personnes qui doivent vraiment doser ils ont une espèce de bulle d'énergie, d'enveloppe d'énergie, comme un vase qu'ils ont à disposition. Et chaque activité ou chaque élément de la vie va prendre un petit peu dans la journée, hein, va prendre un petit peu de cette énergie. Et quand on est à zéro, c'est fini. La personne ne bouge plus, elle est à plat, elle dort, elle est en chaise, elle est dans le lit. Ça peut durer des semaines, c'est une période de crash, comme ils appellent. Donc ça, pour que ce soit diagnostiqué, c'est souvent une errance diagnostique, comme on dit. Donc les gens qui vont de médecin en médecin, tout, enfin, voilà. C'est quelque chose d'assez complexe, et puis vraiment, où là, le dosage est hyper important. Et puis maintenant, bah, la mode, voilà, on connaît ce terme de Covid. Depuis un moment, mais le Covid long, maintenant on commence à avoir du recul. Et puis Covid long, c'est à partir de 3 mois de symptômes, principalement de fatigue, d'épuisement, d'essoufflement. Il y a plus de symptômes pulmonaires, mais disons, ça c'est quelque chose qui est maintenant décrit et qui est pris au sérieux, quoi, parce que ça commence à s'accumuler. Bon. Donc voilà, puis là aussi, le dosage est très important. Du coup, on parle un peu plus aussi du syndrome post-polio. En cherchant un petit peu hier soir, je voulais voir si je trouvais des illustrations à l'autre, je suis tombé sur une interview à la radio québécoise, donc c'est super sympa d'écouter cet accent. Et puis là, il demandait, mais si c'est pas la même chose que syndrome post-polio, la fatigue, le Covid long, et puis hop, donc, oui, et puis il réexplique syndrome post-polio. Donc voilà, on redevient un peu devant de la scène. Ça permettra de détecter certaines choses, d'adapter certains traitements peut-être un peu mieux. Donc voilà, ces deux particularités, surtout par rapport à la gestion de l'effort. On en parlera certainement plus après. Là, je vois que j'ai un peu dépassé les 30 minutes. Hein. Pour doser les activités quotidiennes, il y a ce qu'on appelle le pacing. De l'anglais, ça veut dire littéralement rythmé. Donc rythmer sa manière de fonctionner, adapter son rythme de vie, fractionner les activités, etc. Donc ça c'est quelque chose qu'on pourra discuter après tout à l'heure. Vraiment pour doser l'effort dans une même journée. Il y a un petit guide qui a été fait par l'Association française des personnes qui sont atteintes du syndrome de la fatigue chronique. Ici, j'en ai quelques-uns, mais on peut toujours les commander en plus, qui est vraiment super bien fait par les patients, et qui parle du pacing, justement, de rythmer ces journées. Puis ça m'a fait penser à 2-3 choses que je disais comme ça, un peu par expérience aux patients, de tout prendre en considération. Ils ont un tableau qui est pas mal. Vous le verrez peut-être de plus près, je sais pas si ça sort bien, mais disons, c'est de noter vraiment toutes les activités de la journée, donc même lire, ça, en est une pour eux en tout cas. Il y a quand même un peu d'énergie qui part dans la lecture, dans la concentration. De faire attention aux faux amis. On se dit je me repose, je suis en train de téléphoner, mais là on s'emballe au téléphone, on discute. On va quand même se fatiguer aussi. Donc après on peut avoir moins d'énergie pour aller marcher parce qu'on a trop fait le téléphone. Donc il faut C'est pas que c'est trop de téléphone, mais disons que c'est à mettre en prendre en considération dans la journée. Enfin, il y a des pistes comme ça qui sont pas mal. On pourra les faire tourner après. Pour les physios, en tout cas, personne de la monde médical, on a toujours besoin d'échelles, de chiffres, tout ça, ça aide un peu à structurer, à transmettre. Il y a ce qu'on appelle l'échelle de Bohr modifiée qui va jusqu'à 20, c'est 20 étant un effort très très difficile. Et puis dans le syndrome post-polio, bah, il faudrait aller max à 12. Donc c'est pas beaucoup, enfin c'est pas beaucoup, c'est quand même un peu difficile. Voilà. Alors c'est subjectif, mais ça donne une idée. Il ne faut pas aller chercher dans les réserves et puis hop, enfoncer comme vous avez peut-être, les personnes ont eu l'habitude de faire toute sa vie, toute leur vie, parce qu'il faut forcer, il faut avancer, il faut travailler, etc. Où là, on va aller à fond. Donc, les gens qui sont habitués à fonctionner à 17, quasi au quotidien, ben, paf, de dire non, non, c'est 12. Pas facile. Enfin, c'est pas facile, c'est possible, mais c'est un défi supplémentaire. Voilà. Vu qu'il y a eu beaucoup de. J'essaie de synthétiser tout ça. Les similitudes entre une personne âgée et quelqu'un qui a le syndrome post-polio, globalement, on va trouver ça. Donc, moins de mobilité avec un déconditionnement. Ce qui ressort aussi le plus, c'est l'incontinence quand même dans les deux parties, et puis les douleurs.
Qu'est-ce que vous appelez des conditions?
Déconditionnement global, moins de force, moins de. Voilà. Les causes, elles sont très variées. C'est ce qui ressort, c'est la similitude entre les deux. Plus spécifique à la personne âgée, c'est le risque de chute, bien que chez les personnes syndrome post-polio, il y a aussi. Mais vraiment, globalement, quand il y a une personne de 65 et plus, il faut toujours avoir ça, en tout cas en tant que thérapeute, là je vous parle en tant que physio, il y a ces risques de chute, et puis les troubles cognitifs, les troubles de compréhension, de mémoire, etc. Et plus spécifique, syndrome post-polio, la fatigue, enfin la fatigabilité, en tout cas, voilà. Et les troubles du sommeil, de la sensibilité. Donc, c'est quand on prend tous ces éléments dont on a discuté tout à l'heure, on pique ceux qui sont communs dans les diagrammes là, du cercle, ceux qui sont au milieu, c'était la première, et puis là, c'est plus spécifique que le syndrome post-polio. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on se sent? Donc, une petite pause. Comme ça, vous avez peut-être noté des questions, gardez les questions en tête. On va surtout en débattre après, parce que c'est intéressant. Il y a un petit guide aussi que M. Delinsky va vous proposer pour pouvoir échanger de manière constructive et puis aussi voilà, pouvoir étoffer un peu tout ça.
Petite pause, vous avez du café, une machine à café, du thé, des tisanes, si jamais on peut vous servir aussi à table, il suffit juste de le demander. Et on se retrouve dans 15 minutes.
Merci.